Consultant, historien et spécialiste des relations économiques franco-chinoises, Félix Torres vient de publier à l'occasion du 20e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, Le temps de la Chine, la France au défi du plus grand marché du monde. Une véritable bible de la coopération économique sino-française qui donne les clés d'une implantation française réussie sur le plus grand marché du monde. Architecture, transport, aéronautique, énergie, tertiaire, développement durable, agroalimentaire. Comment être en phase avec la Chine sans pour autant sacrifier le redressement productif français? Là est la question. Alors Félix Torres, pour commencer, d'où vous vient cette passion pour la Chine?
Écoutez, moi j'ai découvert la Chine au début des années 2000. J'étais bien sûr fasciné par la profonde la culture et la civilisation chinoise, par la sympathie des Chinois, parce que j'aime la Chine. Et je crois que si on veut faire des affaires ou simplement aller faire l'aller-retour avec la Chine, il faut aimer la Chine. Et d'autre part, bah, ce fantastique miracle économique, ce take-off, ce boom économique sur lequel il faudrait revenir.
Ah bah oui, mais nous avons d'ailleurs pas mal de temps pour y revenir. Alors comment vous avez travaillé pour écrire ce livre, Le temps de la Chine ?
Écoutez, au fil de mes voyages, j'ai rencontré monsieur la Chambre de commerce française en Chine, et l'idée est venue peu à peu de dire il manque un outil, un état des lieux qui fasse un peu un bilan, pas seulement actuel, mais aussi rétrospectif, un peu de profondeur, dans la durée, dans l'espace, puisque la Chine c'est un continent, des entreprises françaises, de l'économie française en Chine. Au-delà de est-ce que nos relations politiques sont bonnes, est-ce que tel Premier ministre, est-ce que tel Président de la République a vendu des Airbus, des centrales nucléaires ou autres TGV, se dire c'est quoi la présence économique française en Chine, d'où pas mal de bonnes surprises, au-delà des idées reçues qu'on peut avoir sur la France en Chine.
Alors, il y a beaucoup de témoignages dans votre livre, des témoignages d'experts, des portraits, bref, c'est un ouvrage de référence que vous avez voulu faire.
On a voulu allier d'une part des reportages, des enquêtes de terrain dans différentes provinces chinoises. Par exemple, dans le Liaoning, la province de l'ancienne Mandchourie, j'y suis allé. Bah, j'ai constaté que c'est la base de l'industrie lourde chinoise. C'est devenu très moderne. Ils travaillent pour les entreprises allemandes en particulier, pour Volkswagen, BMW. Et la France, il y a quelques positions. C'est-à-dire qu'aller voir sur place, rencontrer des entreprises françaises en Chine, mais aussi avoir des analyses. Parce que je pense que ce qui fait un petit peu défaut à notre présence française en Chine, et je dirais plus largement en Asie et ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de cas, je suis arrivé, je ne connaissais personne, j'ai développé mon affaire, on était 5, maintenant on est 1000. Des cas où les gens racontent, c'est très bien leur expérience, leur pratique, leur saga, mais au-delà, combien on pèse ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs étapes de développement ? Où est-ce qu'on va maintenant ? Il manque toujours, je pense, en termes d'intelligence économique, une réflexivité que les anglo-saxons ou les allemands ont beaucoup plus que nous.
En tout cas, votre livre apporte une pierre à l'édifice. Alors, puisque le temps de la Chine est venu, il serait peut-être bon de rappeler comment, de pays émergents, la Chine est devenue au début du XXIe siècle la seconde économie mondiale devant le Japon et derrière les États-Unis.
Écoutez, je pense qu'il faut d'abord se dire que la Chine, c'est... On a un peu tendance à voir la Chine, nous Français, comme un hexagone, un grand hexagone, avec au milieu Pékin, en dessous Shanghai, et quelques villes, et puis basta. Or, la Chine, c'est un continent. C'est un continent, c'est le troisième pays du globe par la superficie, et c'est 1,3 milliard, ou sans doute plus, d'habitants. Ça ne veut rien dire, mais prenons un exemple, il y a 25 provinces chinoises en Chine, bien sûr. Chacune est, au moins la plupart d'entre elles, sont plus peuplées et plus grandes que la France. Donc la Chine, c'est 25 fois la France. Donc à partir de là, on se dit que la Chine, c'est l'Europe, c'est une Europe, c'est un continent. Et donc le rattrapage de la Chine, fatalement, après le déclin de la Chine au 18e, 19e siècle, c'est aussi le rattrapage d'une masse démographique, politique, spatiale, d'où son effet, je dirais, un peu de tremblement de terre pour la planète.
Que penser du ralentissement de l'économie chinoise aujourd'hui, justement? Quels pourraient être ses effets?
Je pense que c'est un grand thème, mais qu'on l'a un petit peu trop, on l'exagère beaucoup. C'est-à-dire, d'abord, on le voit de façon très générale, en dessous d'un chiffre, 7%, l'avion chinois se cracherait, commencerait à battre de l'aile, des révoltes éclateraient dans les provinces. Bref, la Chine, c'est, comme je viens de le dire, c'est 25 fois la France. Donc, il y a des provinces comme le Sichuan, par exemple, qui ont des taux de croissance de 13%, 14%. Vous voyez, donc c'est-à-dire, il faut, et puis chaque ville, dans 25 France, fatalement, vous avez des régions, vous avez des provinces, vous avez des villes, des secteurs qui marchent plus que d'autres ou qui performent plus que d'autres. Je pense que cette vision conjoncturelle de beaucoup d'experts occidentaux, que d'ailleurs les Chinois reprennent en disant « on va vous garantir cette ennemie croissance », c'est une vision très trompeuse, très biaisée. La vraie tendance, le trend, comme on dirait en anglais, c'est qu'en fait la Chine s'urbanise. C'est le plus grand gigantesque exode rural de l'histoire de l'humanité. Dans les années à venir, il y a 500 millions de Chinois qui vont aller de la campagne à la ville. 500 millions. 500 millions. C'est-à-dire c'est plus que le Japon et l'Allemagne réunies, je dirais. Donc à partir de là, ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les employer, il faut les éduquer. Bref, c'est un immense marché d'infrastructures, d'équipements de consommation qui est en cours de process. Je voulais citer quelqu'un qui s'appelle Stiglitz, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Il disait dans un livre paru fin 19e siècle, fin 20e siècle, il y aura deux phénomènes qui vont marquer le 21e siècle. Les nouvelles technologies américaines, Internet, nous y sommes bien sûr, et puis l'urbanisation de la Chine. Tout est dit. Le grand phénomène, la grande tendance, le marché lourd qui est devant nous, c'est que la Chine devient un pays de citadins à l'échelle d'un pays continent, c'est-à-dire de plus d'un milliard d'habitants. Je dirais, dans l'avenir, un citadin sur six vivra en Chine et travaillera en Chine.
C'est pas mal. Donc finalement, l'usine du monde s'est terminée pour la Chine, ou presque. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est d'ores et déjà devenue le laboratoire du monde ?
Non, je pense que d'abord, ce sont toujours, une fois de plus, ce sont des formules trop générales. C'est-à-dire que d'abord, c'est vrai que la Chine a rattrapé son retard, ce qui était assez neuf d'ailleurs comme idée, en travaillant pour le reste de la planète, en étant un atelier du monde, dans des zones comme notamment le Guangdong, autour de Shenzhen, en face de Hong Kong. Mais la Chine, ce n'est pas que ça. C'est d'abord, par exemple, un marché d'infrastructures et extraordinaire. On a beaucoup parlé de l'accident du TGV chinois. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a la ligne de TGV, elle roule, et elle relie, comme notre TGV à nous, des villes de moyenne importance, des réseaux ferrés de moyenne importance. C'est-à-dire qu'en fait, le TGV chinois, c'est l'arbre qui cache une forêt. Et la forêt, c'est une sorte de désenclavement des provinces chinoises. Et qu'en fait, le grand marché chinois est en train de se faire, notamment grâce au TGV. Enfin, autre à grande vitesse chinois. Autre exemple, l'aéronautique. La Chine a un énorme retard en termes d'aéroports. Et aujourd'hui, la croissance du trafic aérien en Asie, c'est la Chine. Le nombre d'aéroports qu'on construit tous les jours, hyper moderne, comme chacun peut le constater quand il va en Chine, c'est l'avion. Parce qu'on prend beaucoup l'avion en Chine. Et quand je prends l'avion en Chine, je vois pas autour de moi des cadres avec des cravates. Je vois des gens en pull, chemisette, pantalon de travail. C'est-à-dire, dans l'avion, on a plein de gens en Chine. Donc, il y a un immense marché intérieur, extérieur qui s'ouvre. Et par exemple, pour prendre l'exemple d'Air France, Air France l'a bien compris, je crois qu'il y a 14 à 15 liaisons entre la France et la Chine par Air France, enfin le groupe Air France KLM, en sachant que c'est pas seulement des Français qui vont en Chine, mais aussi des Chinois qui viennent en France et en Europe par Air France. Donc je dirais, le décollage de la Chine, au sens propre, au sens figuré, il est bon pour nous.
Et le décollage de la Chine, il peut évidemment se faire à l'ouest, plutôt.
À l'ouest, c'est-à-dire ?
À l'ouest de la Chine, le Xinjiang, etc.
Oui, alors c'est pareil. Comme c'est un immense continent, comme c'est un continent, il y a des différences spatiales, des inégalités spatiales. Le gouvernement chinois a mis l'accent sur ce qu'on appelle la Go West Policy. Mais enfin, je crois qu'il faut quand même raison garder, je dirais. Les provinces côtières continuent à se développer. C'est-à-dire, on n'a pas un exode, on n'a pas des gens qui quittent Shanghai, Pékin ou Canton pour aller s'installer à Chengdu ou dans le Zhejiang, le Xinjiang. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement chinois, c'est normal, veut rééquilibrer l'Ouest, son Ouest, parce que c'était des régions assez désertiques, assez sous-peuplées et sous-développées. Il met notamment l'accent sur le Sichuan, qui est la grande province intérieure de la Chine, qu'on pourra appeler comme le centre-ouest, hein, avec des villes comme Chengdu et Chongqing. Bon, enfin, une fois qu'on a dit ça, vous avez toutes les provinces côtières, et ça en fait beaucoup. Vous avez aussi toutes les provinces du milieu, notamment la province avec la ville de Wuhan, où se trouvent beaucoup d'entreprises françaises. C'est-à-dire que la Chine, c'est très grand, et je crois qu'on la simplifie trop par deux ou trois tendances. C'est 25 provinces qui croissent à leur rythme, et dans 25 provinces, c'est beaucoup de villes de 1 million d'habitants, qui dans quelques années auront 1,5 million ou 2 millions d'habitants. C'est ça la tendance lourde de la Chine.
D'ailleurs, 1 million d'habitants, c'est une toute petite ville.
Il a seulement 100, quoi, c'est tout.
Ben voilà. Le 12e plan quinquennal prévoit le maintien du taux de chômage en dessous de 5%. Alors, est-ce que c'est bien réaliste, tout ça ?
Écoutez, d'abord, je crois que la Chine est toujours en croissance industrielle. Et quand on voit la part qui est réservée à l'investissement et à la consommation, c'est clair, il y a un graphique que nous commentons dans le temps de la Chine. La Chine est toujours en croissance industrielle. C'est toujours l'Angleterre du 19e siècle ou la France du 19e siècle. Alors, quand on nous dit qu'il faut qu'elle passe à la consommation, il faut qu'elle arrête de construire des routes, des aéroports, des barrages. Non. La Chine est toujours en train de faire sa révolution industrielle, ne serait-ce que parce que la révolution industrielle donne les bases de faire vivre 1,5 milliard de Chinois de façon moderne. Donc je dirais, le poids de l'industrie, le poids des gens dans le secteur secondaire est toujours très élevé. Alors peut-être, certains nous disent, un peu trop élevé. Moi j'ai surtout le sentiment que la Chine combine les deux, c'est-à-dire qu'on a d'une part ce taux d'investissement et d'infrastructure très élevé. On s'est beaucoup gossé à une époque, il y a 2005-2006, toutes ces autoroutes vides. Bah maintenant, il y a des voitures sur les autoroutes. Bah, il vaut mieux construire des autoroutes qu'acheter des yachts ou acheter des maisons de luxe en Occident. Vous voyez, donc la Chine investit lourdement, au prix de beaucoup de gaspillage chez certains, mais elle investit lourdement. Le deuxième point, c'est qu'on a une classe moyenne. Alors, ça fait toujours sourire. On dit la classe moyenne chinoise, c'est combien de personnes? Allez, 350 millions, 400 millions. Bah, je crois que chaque année, on va dire 1 million de personnes rentrent dans la classe moyenne. C'est colossal, 350 millions. C'est 4 fois l'Allemagne. Vous voyez. Donc, la classe moyenne chinoise, dans les provinces côtières en particulier, chaque fois qu'on va en Chine, on est frappé. Elle s'habille mieux qu'avant, elle est plus éduquée qu'avant, elle est plus, elle a un sens de la consommation plus aigu qu'avant. Elle a des demandes, notamment de voyage, aussi bien en Chine qu'à l'extérieur, plus grand. C'est-à-dire que la Chine combine les deux. Alors moi, je crois qu'il faut de nous polariser pas trop sur le taux de croissance de 7%. Considérons que la Chine fait les deux en même temps. Une révolution industrielle, et comme c'est un continent, aussi une révolution de la consommation.
Le taux de croissance, certes, mais moi je parlais du taux de chômage. Parce que, en fait, le 12e plan quinquennal veut absolument maintenir le chômage en dessous de 5%. Et la question est que, par rapport à la productivité de la Chine d'aujourd'hui, et par rapport à son marché qui se développe, est-ce que c'est possible de maintenir en dessous de 5%?
C'est toujours compliqué d'analyser un marché du travail. Moi, j'ai le sentiment que la Chine manque de main-d'œuvre, notamment qualifiée. Et la question, c'est ça, c'est former une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Ceci dit, vu le turnover très élevé dans les entreprises chinoises, parce que les Chinois sont des gens assez libres et qui bougent beaucoup, hein, quand ils sont pas contents, ils quittent une entreprise et ils changent de province. Je suis souvent frappé quand je vais en Chine, je rencontre tel ou tel Chinois ou Chinoise à l'occasion d'une rencontre, et je leur dis d'où vous venez. Ils sont pas de la province ou de la ville où je suis. Ils ont bougé sans aucun problème, ce sont des mobiles comme les Américains. Donc la force de la Chine et la force du marché du travail chinois, c'est une très grande mobilité. Et donc si les conditions sont meilleures pour aller à l'Ouest, ils iront à l'Ouest. Si toujours il y a encore de la place ou des conditions d'embauche à Pékin, ils iront à Pékin. La force de la Chine, je crois, c'est un marché du travail très dérégulé. C'est vrai, très inégal. On ne paye pas de la même manière à l'Ouest, au centre, qu'à l'Est. Mais je dirais, c'est aussi une force. C'est-à-dire que des industries de main-d'œuvre lourdes peuvent trouver une main-d'œuvre bon marché, relativement meilleur marché, que dans certaines grandes villes de la Chine, ou métropoles, où bien sûr la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années.
L'économie verte est au cœur des défis que la Chine doit relever, tout autant d'ailleurs que sa réforme fiscale et financière.
Alors, il y a deux questions dans ce que vous dites, Françoise.
Tout à fait, il y en a
la
deux.
La première, c'est la réforme, et la deuxième, c'est la pollution. La réforme, là, c'est un grand problème. Je crois qu'il faut, revenons un petit peu en arrière sur ce qu'on appelait les 30 glorieuses chinoises, qui, à mon avis, est une expression inadaptée, même s'il y a des articles du temps de la Chine, le reprend. C'est que, on a pensé que depuis 30 ans, depuis Deng Xiaoping, là, les réformes de Deng, la Chine a connu 10% ou 12% de croissance à deux chiffres, et tout allait bien, et puis brusquement est arrivée la crise de 2008. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Notamment, il y a eu à la fin du 20e siècle, je m'excuse de nous ramener au siècle précédent, mais la crise asiatique et la Chine, la croissance chinoise a fortement reculé. Et le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire Zhang Zemin, le président Zhang Zemin et le premier ministre Zhu Rongji, ont fait des réformes drastiques qui ont consisté à sabrer tout le secteur d'État, hein, à déréguler, déréglementer, bref, transformer la Chine en une économie plus moderne, notamment dans la perspective de l'adhésion à l'OMC en 2001. Et le résultat, ça a été 10 années de croissance extraordinaire. D'ailleurs, dont en France en particulier, on a guère pris la mesure. On va peut-être y revenir, mais quand on lit certains encore ces articles en 2003, 2004 et jusqu'à 2006-2007, est-ce que le miracle chinois va durer? Est-ce que tout ça, c'est pas du trompe-l'œil? C'est la camelote qu'il fabrique? Bref, on n'y croyait pas. On a mis très longtemps. Alors maintenant qu'on sait que la Chine a décollé, on nous dit, attendez, la grande croissance est finie. Bon, bah, écoutez, je dirais, la grande croissance, elle va être devant nous à la condition que la Chine fasse des réformes politiques et économiques. C'est pas sûr qu'elle arrive à les faire. C'est aux Chinois de le faire et au gouvernement chinois de l'imposer pour une raison très simple. C'est qu'en fait, ce qu'on a constaté depuis 2006-2007, c'est l'augmentation de la part des grandes entreprises d'État dans le produit national brut chinois. Et ça, ce sont des intérêts très puissants qui freinent l'initiative privée, qui freinent le secteur privé qui existe en Chine. Et il y a actuellement une lutte, hein, on va le dire, une lutte, je dirais, très banalement économico-politique. Hein. C'est pas une lutte pour les postes, c'est une lutte pour dire le secteur d'État modernisé chinois, qui a beaucoup d'avantages, pèse de tout son poids pour une privatisation, une plus grande concurrence. Mais nous, on a la même chose en France, hein, avec les taxis. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui se sentent menacés, qui ont des positions acquises. Ils refusent, on connaît la même chose pour les télécoms en France ou ailleurs, les secteurs en position dominante refusent une plus grande concurrence. Est-ce que ces secteurs, est-ce que les réformes passeront? Est-ce que le secteur privé aura plus d'air? Ou est-ce que les grands intérêts économiques chinois qui se reflètent au niveau du bureau politique et du comité permanent du bureau politique vont s'infléchir? C'est la question. Et la question n'est pas tranchée, même si on a des mesures qui, à mon avis, restent cosmétiques pour l'instant.
Bon, alors la seconde question, c'était la pollution.
Oui, je pense que la Chine, c'est pareil, c'est un continent, c'est-à-dire elle a du yin et du yang, c'est-à-dire elle a des bons côtés, des mauvais côtés. C'est clair qu'on a une énorme pollution dans certaines villes et dans certaines provinces, notamment charbonnières. C'est clair aussi que la Chine a construit un parc éolien, un parc solaire parmi les premiers du monde, hein, à marche forcée, et construit également un programme nucléaire, même limité par sa proportion dans le bouquet énergétique chinois, mais aussi... Elle a fait d'énormes efforts. Ceci dit, moi, j'avais rencontré des entreprises qui vendaient, des entreprises chinoises qui vendaient à d'autres entreprises chinoises des outils de nettoyage de l'air, d'optimisation des process, et ils me disaient, il faut qu'on convainque nos collègues ou nos clients ou nos prospects chinois de l'utilité, d'acheter nos logiciels pour consommer, enfin, pour produire mieux, moins cher et polluer mieux. Donc, c'est quand même un problème que la Chine devra régler tôt ou tard, parce que la pollution risque de ralentir, bien sûr, la croissance chinoise, mais elle touche aussi les consommateurs. Et les consommateurs, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Donc, je dirais, la pollution est aussi un aiguillon de conscience civique en Chine très fort.
Ça, c'est une bonne chose. Alors, quelle place la Chine de Xi Jinping accorde-t-elle au dialogue avec la France ?
Je pense qu'il y a une idée reçue en France que parce que la France a reconnu avec le général de Gaulle, il y a 50 ans d'ailleurs, la République populaire de Chine le 27 janvier 1964, et parce qu'on a envoyé parce que Louis XIV a envoyé des jésuites au XVIIe siècle, fin XVIIe siècle, il y a une relation privilégiée franco-chinoise. Non, je pense que ça, c'est un peu le narcissisme français. Il n'y a pas de relation privilégiée franco-chinoise pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que les relations franco-chinoises ont toujours été très heurtées, malgré les apparences. Enfin, et on le voit clairement jusqu'à très récemment. On oublie toujours qu'au XIXe siècle, la France a fait trois fois la guerre à la Chine sur le territoire chinois. À ma connaissance, aucune troupe chinoise n'est arrivée jusqu'à Metz ou au Havre. Hein. Le contraire est vrai. Hein. Nous sommes arrivés jusqu'à Pékin, nous avons pillé le palais d'été. Les Anglais l'ont brûlé, les Français l'ont pillé. La première chose, la deuxième chose, c'est que la France, c'est une petite chose. C'est 65 millions d'habitants. Et donc, la Chine considère la France en fonction de ses intérêts à elle, la grande Chine. Donc, je dirais, il ne faut pas que la France pense qu'elle bénéficie d'un droit de tirage particulier par rapport à la Chine. En revanche, si la France se dit de ce que je suis, de ce que je propose, de ce que je peux vendre, de ce que je peux apporter à la Chine, peut intéresser la Chine, c'est-à-dire que si elle se met à la place du point de vue chinois, et non pas, elle regarde la Chine dans le miroir français en disant « qu'est-ce que je suis belle dans le miroir d'un autre ?» Ça, c'est très bien le narcissisme, mais arrêtons l'effet nombril. Il faut que la France se dise, ou les entrepreneurs français, ou les élites françaises, se disent « qu'est-ce qui est bon pour la Chine ?» Et à partir de là, on verra s'ouvrir les portes de la Chine. Enfin, elles sont déjà ouvertes en partie. Mais on verra beaucoup de liens se nouer parce que, je dirais, on oublie toujours en France. On dit oui, nous vendons à la Chine les Airbus, nous vendons les centrales nucléaires. Enfin, c'est un peu plus compliqué, etc. Ou Peugeot ou PSA essaient de vendre des voitures. Bah, le problème n'est pas que de vendre avec la Chine. Il est aussi de rentrer dans une logique de co-développement avec la Chine et d'apport de ce que la Chine a besoin. Il y a un proverbe chinois que j'aimerais citer. C'est un problème extraordinaire parce qu'on comprend tout de suite les Chinois. C'est un ami, c'est un chemin, un ennemi, c'est un mur. C'est-à-dire que si on ne noue pas un dialogue avec les Chinois, si on ne rentre pas dans une logique de win-win, mais une logique de win-win avec les Chinois, et quand on connaît les Chinois et quand on aime les Chinois, on sait ce que c'est, les voir régulièrement, ne pas se contenter d'un ou deux voyages en disant voilà, j'ai un truc miraculeux dans mes poches, allez-y, puis on repart, puis on ne revient pas. Les Chinois nous regardent avec un drôle d'œil, alors que les Allemands, eux, reviennent. Hein. On pourra peut-être revenir sur la force des entreprises allemandes en Chine. Les Allemands, eux, reviennent souvent, régulièrement. Un consultant me disait, je suis allé partout en Chine, mais un Allemand était déjà venu avant moi. Il était déjà venu plusieurs fois. Il faut aller plusieurs fois en Chine. Pas seulement pour vendre nos produits, mais aussi pour comprendre ce que les Chinois attendent de produits nouveaux, ou de process nouveaux, ou d'utilities, etc. Et à partir de là, on verra s'enclencher une relation France-Chine beaucoup plus saine, beaucoup plus prospère, que les Allemands ont développée, que celle qui consiste à dire « nous voici, nous voilà, nous arrivons de temps en temps, nous arrivons, nous débarquons, et voilà, vous allez acheter nos... » C'est une vision économique, une vision de l'export, que je trouve relativement datée.
Oui, et qui ne marche pas avec la mondialisation et la concurrence.
Et la mondialisation, c'est beaucoup plus compliqué que dire il faut acheter nos Airbus.
On ne peut plus être narcissique. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie française est installée depuis 20 ans en Chine. Oui. Quel est son rôle, finalement ?
Son rôle, c'est être un rôle de coordination des entreprises françaises en Chine, d'abord de représentation, mais aussi un rôle de conseil. C'est-à-dire qu'une entreprise veut aller en Chine, qu'elle appelle la CCI, les équipes de développement, et notamment cette approche que je trouve assez forte, que moi aussi je développe par ailleurs, qui est dire on ne peut faire des affaires en Chine, on ne peut, quand on est une PME en particulier, se développer en Chine que si on a une bonne relation avec son partenaire chinois. C'est-à-dire qu'on choisit la bonne ville, on ne voit pas trop grand, on choisit les bons partenaires, on prend du temps pour choisir les partenaires. Les Chinois, ils ont un terme pour ça, ils disent c'est comme se marier. Écoutez, ils disent, pour trouver sa conjointe ou son conjoint, il faut du temps. Et après, une fois qu'on est marié, bah écoutez, la vie commune commence. Et il peut y avoir des choses qui se passent bien ou mal. Je crois que si on va en Chine en négligeant la Chine et les Chinois, on va à l'échec. Donc le rôle de la Chambre de commerce française en Chine, c'est d'être un rôle de représentation, de support et d'appui, de conseil, d'accompagnement, pas seulement pour le premier shot, pour le premier coup, mais aussi dans la durée. Et je pense que je dirais, on a 1500 entreprises ou un peu plus en présente en Chine. Il y en a de plus en plus, des grandes, des petites, des moyennes. Je pense qu'il y a un effet, on ne va pas dire un effet meute, comme les Allemands le procèdent, mais il y a un effet quand même collectif un petit peu plus grand, je pense, depuis quelques années, qu'il y a 10 ou 15 ans, où ça restait quand même, les Français restaient dans une approche extrêmement solitaire, chacun y allait pour soi et restait entre soi.
Alors, 1500 entreprises et 500 000 employés, ai-je pu lire dans votre livre. Alors, l'aventure de la Chambre de commerce française en Chine a commencé à Shanghai. Aujourd'hui, elle se poursuit sur 12 villes. Donc, la France est bien présente en Chine, mais est-ce qu'elle est mieux placée que l'Allemagne ou les États-Unis ?
Écoutez, d'abord, l'implantation américaine et japonaise et taïwanaise en Chine n'est pas l'implantation des entreprises occidentales et européennes. C'est-à-dire que les Américains, les Japonais et les Taïwanais font produire en Chine ce qu'ils consomment chez eux. C'est clairement ce que nous dirions en France en schématisant la délocalisation. Alors que le modèle d'implantation des entreprises occidentales, c'est-à-dire allemandes, anglaises, françaises, italiennes, espagnoles, il n'y a pas que nous en Europe, c'est un modèle plutôt de production sur place. C'est-à-dire que les entreprises françaises qui majoritairement vont en Chine, elles ne vont pas en Chine contrairement à ce qu'on croit pour chez nous pour produire à tout prix des choses qu'elles vont réimporter en France, même si ce segment existe, mais enfin il est quand même très mineur. Elles vont pour produire pour deux grands marchés. Le marché chinois, ce marché donc, qui est un gigantesque marché qui est devant nous, et aussi le marché sud-asiatique. C'est-à-dire qu'en Chine, on produit toute une partie de la chaîne de valeur pour exporter vers l'Indonésie, vers la Corée, peut-être le Japon, la Philippine. C'est-à-dire que il faut raisonner Chine et Asie. Donc de ce point de vue-là, les entreprises françaises en Chine, elles produisent, je dirais, j'ai pas le chiffre en tête, mais le chiffre d'affaires généré par les entreprises françaises produisant en Chine, c'est-à-dire que sans qu'il y ait passage par la France ou ailleurs, c'est trois fois plus que l'export franchi. Donc on oublie toujours cette dimension cachée. Ceci dit, c'est vrai, on est moins bon que les Allemands. Bon, voilà. On est bon, mais on est moins bon que les Allemands. Moi, je pense qu'il y a une raison très simple. Je l'ai demandé plusieurs fois à des Chinois. Ils m'ont dit, vous êtes le premier Français qui nous pose la question. Bon, comme il y a beaucoup de Chinois, ça ne veut rien dire. Mais ils disent, pourquoi les Allemands sont meilleurs que vous ? Parce qu'ils viennent chez nous depuis longtemps. Ah bon ? Depuis un siècle, avec la bière qui est devenue la Tsingtao et Siemens. Et parce qu'ils reviennent régulièrement, parce qu'ils creusent le sillon, parce qu'ils s'intéressent à nous dans la durée. C'est-à-dire que les Allemands font preuve de ce que j'appellerais la ténacité et la persévérance dans la durée. Je dirais qualités qui ne sont pas tout à fait les qualités françaises. Je pense que... Moi, à un moment donné, j'ai entendu un bruit qui m'a beaucoup alarmé l'année dernière quand je présentais le livre en Chine, qui était des entreprises françaises, parce que le taux de croissance ralentissait, étaient prêtes à repartir de Chine. Mais ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Bon, c'était un peu une rumeur, même si deux ou trois ont un peu... C'est effroyable, parce que le Chinois, il est rassuré quand on travaille avec lui dans la durée. L'instant où on l'abandonne, où on s'en va, il ne vous prendra pas pour quelqu'un de sérieux. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas parce que le taux de croissance de la Chine est passé de 12 à 7,5%, ou parce qu'on vient de découvrir la Chine et parce qu'on est allé deux fois et qu'on trouve que le marché n'est peut-être pas ce qu'il devrait être, qu'il faut emballer, il faut faire preuve de ténacité dans la durée.
Et donc
de persévérance. C'est un peu notre principal défaut, voir plus loin que la conjoncture immédiate.
Alors, je rappelle quelques chiffres. L'Allemagne, c'est 5,06% des parts de marché et la France, 1,33%. Ça, c'est pas mal par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, est-ce qu'on, justement, on peut dire que la Chine est encore aujourd'hui, comme le dit Jean-Pierre Raffarin, une forêt d'opportunités et un moyen de sortir de la crise par le haut?
Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Raffarin, qui est quelqu'un qui a compris la Chine depuis un certain temps et qui fait preuve de ténacité sur la Chine. Je pense que contrairement à ce qu'on croit, la Chine n'est pas concurrente de la France et que ce serait, je dirais, folie ou lubie de dire que nous, 65 millions d'habitants, on va concurrencer un pays de 1,4 milliard d'habitants. C'est une folie, je veux dire, ça n'a pas de sens. Non, je crois qu'il faut se dire que comme les Allemands l'ont compris, le développement de la Chine industriel, logistique, en consommation, induit de fantastiques opportunités pour les entreprises françaises, de tout secteur. Aux entreprises françaises de tirer parti de cette opportunité.
Alors quand vous dites tout secteur, moi la question suivante c'est quels sont les secteurs où nous sommes vraiment compétitifs, où on a une chance de réussir ?
Tous les secteurs, dès l'instant où on apporte une valeur ajoutée en Chine, et dès l'instant où on propose aux Chinois des produits soit sophistiqués, soit moins sophistiqués, qui leur conviennent. Je vais prendre deux exemples, aux deux échelles. Le premier, c'est dans la coiffure. Moi, j'étais à Canton, j'ai rencontré un entrepreneur français qui, sans aucun fonds propre, a construit un réseau de 25 boutiques, je dirais, que nous, on dirait franchise coiffure, un peu les Jacques de Sange là-bas, qui font pas seulement la coiffure, mais aussi tout ce qui est l'entretien, la beauté, les ongles, etc. Et il me dit, mais non, mon problème, c'est est-ce que je vais aller à Shenzhen, qui est de l'autre côté de la rivière des Perles, je vous rappelle. On n'est pas à l'échelle de la Chine, on est à l'échelle d'une province et du delta de la rivière des Perles. Parce que, quitter Canton. Mais alors, Giro, là, de Canton, moi, je peux contrôler mes 25 salons de coiffure, c'est pas facile. Voilà un exemple de quelqu'un qui, à partir de rien, crée, sur un marché qui est quand même assez banal, la coiffure, mais avec le petit touch français, une idée. Bon, il y en a d'autres, je pourrais les citer. La deuxième, c'est l'aéronautique. Est-ce que vous savez que la part de marché française qui était celle d'Airbus en 1985 sur le marché chinois?
Pas du tout.
Zéro. Le marché chinois était à peine embryonnaire et en moyen courrier, c'était Boeing qui dominait. Boeing avait 15 ans d'avance, et on le sait peut-être pas trop assez, mais qu'un jour Deng Xiaoping est allé aux États-Unis, il est allé à Seattle et il a fait acheter des Boeing par la Chine. Aujourd'hui, le marché chinois en termes d'avions a explosé, en termes de quantité, et c'est 50-50. Airbus a rattrapé son retard sur Boeing. Pourquoi? Comment ils ont rattrapé son retard? Prenons deux exemples. D'abord en créant, comme l'a fait d'ailleurs le motoriste français Safran, des écoles de maintenance, des écoles de formation, c'est-à-dire qu'en accompagnant le développement du secteur aérien chinois, pas en disant « Oh là là, ces gens-là vont nous prendre toutes nos idées, surtout ne faisons rien avec eux, restons entre nous, replions-nous dans nos campagnes et dans nos rivières ». Non, non, ils se sont dit « Le transport aérien va décoller, il faut l'accompagner, il faut former des techniciens chinois, des cadres chinois, qui bien sûr après auront intérêt, auront envie de travailler avec nous parce qu'ils nous connaissent, qu'ils ne connaissent pas seulement Boeing. »
Et c'est Air France, la première entreprise française qui s'est installée en Chine en 1966, déjà dans les avions.
Après, il y a eu la construction d'une ligne de montage à Tianjin. Jean-Pierre Raffarin me disait, il y a eu un débat au sein du gouvernement français dans les années 2000, c'était Chirac qui était président et Raffarin Premier ministre. Tout le gouvernement était contre, sauf Chirac et Raffarin, qui ont dit « on fait la ligne ». La ligne, elle produit, elle assemble. C'est pas stratégique, elle fait de l'assemblage, mais enfin, elle permet aux Chinois de produire des Airbus sur leur sol, ces Airbus qui font le marché chinois. Donc je dirais, oui, il est possible de se développer, quand on est entre une entreprise française ou européenne, avec la Chine, à la condition de comprendre les besoins de la Chine, à la condition de mettre les bons moyens, les bons supports de partenariat nécessaires à ce développement.
Et ce développement, donc, du coup, évoque le problème majeur qui est le transfert de technologie.
On n'a pas envie. J'en ai parlé avec des amis chinois ça fait rire, qui m'ont dit, vous savez, une technologie dans un placard, dans une armoire, ça elle sert à rien. Chose, le marché change et puis vous sortez votre technologie schmilblick et... Non, la question d'une technologie, d'abord, je crois que la question d'une technologie, c'est celle du bon partenaire. Je pense qu'il est clair qu'il y a des partenaires qui sont plus ou moins inégaux en Chine, de qualité. Je pense que quand on veut développer une technologie, quand on soit une PME, un groupe plus grand, il faut trouver les bons partenaires. Et trouver les bons partenaires en Chine, ça prend du temps. Première chose, si on n'a pas un bon partenaire, quelle que soit la qualité de la technologie ou de ce qu'on apporte à la Chine. Et je pourrais citer des exemples là-dessus. Des amis qui m'ont raconté pourquoi c'était pas le bon partenaire, parce qu'on n'avait pas pris le temps de le choisir, ou parce qu'on pensait que les Chinois allaient développer notre technologie pour nos beaux yeux et sans faire d'efforts. La deuxième chose, c'est qu'une technologie, bien sûr, il faut la faire vivre sur le marché. Et pendant ce temps-là, avec les moyens que la licence, le franchising, la production sur place, développer la technologie suivante. Ce qui intéresse les Chinois, bien sûr, c'est nos technologies. Mais on peut très bien donner à nos Chinois des technologies N-1 et pendant ça, développer d'autres technologies, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on reste à l'avance d'un secteur.
Mais on peut se poser la question, combien de temps on va rester en avance? Voilà.
Non, mais la question ne se pose pas comme ça. Il y a 40 ans, le péril jaune, la masse chinoise a remplacé le péril américain. Il y a 40 ans, on nous expliquait, c'était un livre de Servan Schreiber que les jeunes générations ne connaissent peut-être pas, ça s'appelait « Des défis américains ». L'Amérique, les États-Unis allaient envahir l'Europe et le monde à la fin des années 60, les multinationales, j'étais étudiant, j'ai appris tout ça dans mes cours de l'époque. Bon, l'Amérique n'a pas envahi le monde commercialement. Peu à peu, des relations se sont faites, des entreprises américaines sont installées en France et ailleurs. Et inversement, les entreprises françaises sont allées aux États-Unis. Pensez que quelque part, la concurrence, un monde de concurrence globale, c'est un monde où une espèce chasse l'autre. Non, c'est une vision de l'esprit. Non, au contraire, dans un monde de concurrence globale, il faut cultiver ses talents. Il faut cultiver des partenariats. Je pense que quelque part en France, on a un peu... C'est notre défaut un petit peu, je dirais, grandes écoles techniques, de penser qu'on a la bonne technologie, on a les bons cerveaux, et que la technologie suffit pour s'imposer sur un marché. Ben, un marché, ça c'est aussi du marketing. Ça, les anglo-saxons l'ont compris depuis très longtemps, les allemands aussi. Parce que je ne pense pas que les Chinois concurrencent les Allemands sur leur technologie, alors que pourtant les Allemands ne cessent de produire avec la Chine. Donc, regardons un peu ce que les Allemands font en Chine. Et la deuxième chose, c'est je dirais, les partenariats locaux. C'est-à-dire que c'est parce qu'on peut développer des bons partenariats dans la durée, et Airbus le montre, Safran le montre, le EDF et le nucléaire le montrent, qu'on peut vendre nos technologies et développer la technologie suivante. On n'arrive pas sur un marché, la Chine en particulier, j'aimerais dire un petit mot là-dessus, en disant voilà notre produit, il est tout fait, il est tout prêt, on ne change pas, vous le prenez, et vous avez bien raison de le prendre. Ça ne se passe pas comme ça.
Non, effectivement. Où en est notre coopération nucléaire avec la Chine, qui fut si importante par le passé?
C'est une excellente question, parce qu'on en a fait des... Certains l'ont critiqué à un moment donné. Écoutez, je crois qu'on a une chance, c'est que la centrale de Gravelines, qui se trouve dans le Nord, si je ne m'abuse...
Dans le Pas-de-Calais.
La centrale de 200 MW de Gravelines, c'est le modèle, c'est la tête de série d'une filière franco-chinoise qui s'est faite... J'ai écrit d'ailleurs un livre sur le sujet, qui s'appelle « Le chemin partagé », qui s'est faite reproduite à Daya Bay, autour de Hong Kong, à Lingao 1 et Lingao 2 dans la même région, et qui maintenant équipe tout le programme nucléaire chinois de deuxième génération. Alors, on pourrait dire, oh là là, les Chinois, maintenant qu'ils ont construit les centrales nucléaires grâce à nous, ils vont nous tourner la laine sur le dos et vendre les centrales ailleurs à l'étranger. Mais ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, d'abord, le nucléaire, c'est un domaine très technique, comme l'aéronautique. Et de ce point de vue-là, les Chinois ont toujours besoin de compétences françaises ou autres. Ont toujours besoin d'une expérience d'un exploitant EDF, par exemple, d'une part. Et d'autre part, ils ont besoin d'une nouvelle technologie, les EPR de troisième génération. Donc je dirais, et le fait que le grand programme nucléaire chinois actuel, c'est le grand programme nucléaire soit chinois, permet à des technologies françaises de se développer et de se tester en Chine, deuxième génération avec les CPR-1000, et les EPR troisième génération, mais aussi de faire travailler des PME françaises. On en dit un mot dans le livre, c'est-à-dire que vous avez pas mal de PME français du nucléaire, une au hasard, Vanatome, qui est dans la robinetterie nucléaire, qui travaille sur le programme nucléaire chinois, et pas seulement sur les centrales françaises ou franco-chinoises, mais aussi sur les centrales russes ou autres. Donc de ce point de vue-là, la coopération nucléaire française, ça permet à un secteur... Le nucléaire, c'est quand même le troisième secteur industriel français après l'aéronautique et l'automobile. Ça permet à un secteur français de maintenir à flot ses compétences, de maintenir un chiffre d'affaires et de construire les générations suivantes, que l'on soit pour ou contre le nucléaire.
Certes. Alors comment la France peut être en phase avec la Chine sans sacrifier son redressement productif dont nous parlions au tout début de cet entretien?
C'est pas contradictoire. Je crois qu'on adore en France opposer ces thèses, antithèses, synthèses. C'est-à-dire il faut être de droite ou de gauche. Écoutez, moi j'ai inversé la formule de Deng Xiaoping. Hein. Je vais révéler ça aux auditeurs de l'antenne qui nous écoutent. Vous savez, la fameuse phrase de Deng Xiaoping, il avait dit ça en 1961, l'important c'est pas qu'un chat soit noir ou blanc, c'est qu'il attrape les souris. Ben nous, Français, nous inversons la proposition de Deng Xiaoping tous les jours, sans le savoir. C'est-à-dire, l'important, c'est quelle est la couleur du chat ? Hein ? Est-ce qu'il est noir ? Est-ce qu'il est blanc ? Est-ce qu'il est de droite ? Est-ce qu'il est de gauche ? Est-ce que... C'est-à-dire, arrêtons avec la... Et certains ajoutent même, qu'est-ce que c'est qu'une souris ? À partir de là, on quitte la réalité. Non, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de façon antithétique. La Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le pays du yin et du yang. C'est un continent. C'est le pays des contraires. La Chine peut faire une politique ou tester un procédé dans un endroit et faire autre chose ailleurs et combiner les deux. La Chine reste un pays communiste, c'est un nouvel ordre, et en même temps, c'est un pays hyper capitaliste, hyper inégalitaire. Les Chinois concilient les deux sans aucun problème. Nous, on peut se dire, il faut que l'industrie française, en particulier pour parler industrie, se redresse. Moi, je vais peut-être être politiquement incorrect, mais c'est pas sur le marché français qu'on va vendre toutes nos productions industrielles. Et si tant est qu'on ne vendait qu'à la France et qu'on faisait que du made in France pour la France, d'où viendraient les ressources pour faire la recherche-développement, pour embaucher les nouveaux talents, pour se développer ? Je dirais, clairement, aujourd'hui, le marché, c'est le monde, le marché global. Pour qu'une industrie, l'industrie française se développe, il faut qu'elle ait des marchés en France, en Europe, en Asie et ailleurs. Et c'est parce qu'elle aura ces marchés qu'elle restera au niveau technique, qu'elle pourra embaucher des talents qui permettront de développer de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés, et de développer des partenaires qui permettront de trouver des marchés ou de développer les marchés existants, comme je l'ai signalé pour le nucléaire ou l'aéronautique. Donc, le redressement politique de la Chine, il passe par la globalisation.
Le redressement productif de la France.
De la France, oui. Il passe par la globalisation. Par une globalisation intelligente et maîtrisée. Et il passe aussi par le grand marché du 21e siècle, qui, je le répète, n'est pas derrière nous, mais est devant nous. Il passe par la Chine. Et si on comprend les clés du marché chinois, on aura, je dirais, résolu peut-être pas la moitié, mais une large partie de nos problèmes de redressement politique, parce que le grand marché industriel, et pas seulement de consommation, c'est la Chine.
Félix Torres, merci. Je rappelle la publication de cette véritable encyclopédie que vous avez coordonnée et éditée, Le temps de la Chine, la France au défi du plus grand marché du monde.